Le Noël
des 50 ans Carrefour.
Avec la garantie prix le plus bas sur 200 jouets et jeux vidéo de grandes marques. Comme la bonne paye d'Hasbro à 24,76€ chez Carrefour, alors qu'elle est à 29,20€ chez Leclerc. C'est le
Noël le plus merveilleux.
Carrefour, 50 ans de prix.
Prix en vigueur dans les magasins Carrefour depuis le 19 octobre. Prix moyen constaté du 18 au 22 octobre dans 38 magasins Leclerc. Détail et modalités de la garantie prix le plus bas sur carrefour.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avant de plonger comme chaque jour au cœur de l'histoire, Franck Ferrand avait deux mots à nous dire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Un mot suffirait en vérité. Merci au nom de toute l'équipe, merci de votre confiance, de votre fidélité. Les chiffres d'audience que nous avons reçus ce matin sont bons, en dépit du changement d'horaire de l'émission. Et j'en profite pour faire dire, je dis faire dire, parce qu'il faut que vous qui nous entendez, vous leur disiez, dire à tous ceux qui avaient l'habitude de nous écouter à l'heure du déjeuner, qui ne peuvent plus le faire à 14h, et bien qu'il est possible évidemment de réécouter l'émission sur le site d'Europe 1, mais aussi de la télécharger. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Merci encore.
Aujourd'hui, vous nous ramenez un siècle en arrière.
Et oui, au beau temps, je devrais dire à la belle époque de Monsieur Rodin, à l'hôtel Biron, qui depuis la mort du sculpteur est le musée Rodin, rue de Varennes à Paris, s'ouvre aujourd'hui une exposition intitulée « Rodin, la lumière de l'antique ». Une occasion pour nous de convier le monsieur Beaux-Arts de cette émission, Serge Lega, à nous faire découvrir ce génie de la sculpture. Et pour nous mettre en train, je vais vous parler moi un peu de la vie du bonhomme et notamment de sa vie privée, bien
et
entendu.
Et puis à la fin de l'émission, vous nous reviendrons à l'actualité puisque vous allez nous parler des bonnets rouges.
Oui, pourquoi cet emblème des bonnets rouges, d'où cela vient-il historiquement? Nous répondrons à la question que nous a posée Alexandre sur Facebook. Pour le moment, nous avons donc rendez-vous avec un petit monsieur à longue barbe, Auguste Rodin.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alors plusieurs fois dans cette émission, j'ai eu l'occasion de vous parler du film étonnant réalisé pendant la Grande Guerre, en 1915 exactement, par le jeune Sacha Guitry. C'était, si l'on peut dire, sa contribution à l'effort de guerre. Il est allé rencontrer tous les amis légendaires de son célèbre père, le comédien Lucien Guitry, et il a demandé à tous ces personnages, qui étaient les monstres sacrés de la Belle Époque, il leur a demandé d'exercer leur art devant la caméra. Et il a présenté le résultat dans une conférence qu'il a intitulée « Ceux de chez nous ». Cette conférence, elle a été réenregistrée au tournant des années 50 par Frédéric Rossif dans le bureau de Sacha Guitry. En tout cas, on avait reconstitué son bureau, le bureau d'Élysée Reclus en studio. Et on voit comme ça, on voit Edmond Rostand et Anatole France écrire, on voit plaider Maître Henri Robert, on voit Camille Saint-Saëns diriger une symphonie, on voit Sarah Bernhardt déclamer des vers. Je dis on voit parce que bien entendu, c'est du cinéma muet. Ce qu'on a comme son, c'est simplement la voix de Sacha Guitry qui commente tout ça. C'est un document absolument fascinant et que je vous recommande, j'ai eu l'occasion de le faire déjà. Le début de ce film est consacré à celui qui, parmi tous ces monstres sacrés de la Belle Époque, faisait peut-être figure de génie numéro 1, le grand Auguste Rodin, le père de la sculpture moderne, que Sacha était allé rencontrer dans son atelier de l'hôtel Biron, donc tout près des Invalides. Voici les premiers mots de Guitry dans sa conférence consacrée au maître.
Un jour, je parlais de Rodin comme cela pendant une heure à l'un de mes amis. Il m'a laissé parler et au bout d'une heure, il m'a dit « Oh, moi, tu sais, les hommes de génie, je m'en fous ». Ça m'a fait rire aussi, mais je m'obstine à croire que mon ami est idiot. D'autant plus qu'il s'est mis à critiquer Rodin, ce qui est tout bonnement insupportable. Ne pas admirer Rodin est un témoignage évident d'infériorité, et il est navrant d'avoir pour ami un être inférieur, mais ce qui est odieux, c'est d'entendre discuter un homme de génie par un homme inférieur. D'autant plus odieux que c'est toujours le même reproche qu'on lui fait. Formulé de la façon suivante, qu'est-ce que c'est que ces femmes sans tête, ces hommes sans bras, ces mains sans hommes. Qu'est-ce que c'est que ce sculpteur qui expose des statues qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas complètes? Oui, les gens ordinaires trouvent extraordinaire qu'on puisse exposer un corps sans tête, alors qu'ils trouvent absolument naturel qu'on expose une tête sans corps, c'est-à-dire un buste. Un buste, en effet, ne les étonne pas. Et volontiers, ils disent de lui comme il est vivant. bien qu'il soit aussi impossible de vivre sans corps que d'exister sans tête.
L'humour de Sacha Guitry, en même temps son franc-parler. Vous voyez qu'à l'époque du maître, à l'époque de Sacha Guitry, on ne s'embarrassait pas avec le relativisme actuel. Alors, dans ceux de chez nous, on voit Rodin sur son perron et Sacha lance au public « Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure, vraiment digne de lui, que Rodin habitait et qui, depuis sa mort, est le musée Rodin. Auguste lui-même qui vient à notre rencontre. » Et alors, il faut imaginer, hein, sur l'image, vous avez effectivement Rodin qui a descendu le perron et qui s'approche de la caméra. Il ne regarde pas spécialement la caméra, d'ailleurs. « Dans un instant, ajoute Sacha Guitry, vous le verrez dans son atelier où il se promenait comme un fauve. Fauve il l'était d'ailleurs, c'était le lion de ce désert où se dressaient comme autant de sphinx ses œuvres gigantesques. Mais c'était le lion diffamé. Nul homme de génie en effet n'a été plus bafoué, plus méprisé que lui. Il y a 30 ans, on en était encore à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde avec un tel visage, dit Guitry. Le voici travaillant de son vivant. Il y avait des musées Auguste Rodin en Suède, en Amérique, au Brésil, au Japon, alors qu'en France, on continuait à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde. Il en conservait une tristesse amère, un dégoût que rien ne pouvait atténuer. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne verraient pas bien à quoi ressemblait Rodin ou qui auraient à l'esprit le Gérard Depardieu du film de Bruno Nuitten, hein, le Camille Claudel, laissez-moi vous remémorer en deux mots l'aspect physique de ce monsieur. Un petit homme trapu, râblé, extrêmement musclé, et pour cause, hein, c'est un sculpteur, avec le cheveu dru de plus en plus dégarni, faut dire, à mesure que Rodin avançait en âge, avec aussi et surtout cette somptueuse barbe rousse qui, avec le temps, avait viré au blanc. Un homme, on peut dire, viril, puissant, à la limite de l'impétuosité, avec à la fois une allure très martiale, incontestablement, et des manières très douces. En un mot, diraient les férus d'astrologie, un scorpion dans toute sa splendeur, sensuel et plein d'appétit. Il est né un 14 novembre, le 14 novembre 1840, le même jour que Claude Monet, comme le raconte du reste Sacha Guitry, qui se trompe de date et qui les fait naître tous les deux un 15 octobre, écoutez-le.
Il m'est arrivé de déjeuner un jour avec Rodin et Claude Monet. Au moment de passer à table, ils se sont fait des politesses. À toi, non, à toi, je t'en prie, non, passe le premier, je n'en ferai rien. N'oublie pas que je suis de 1840, mais moi aussi. Mais moi je suis d'octobre. Moi aussi. Oui, mais pardon, moi je suis du 15. Moi aussi. Ils étaient nés le même jour, ces deux grands hommes. Or, je n'imagine pas qu'un événement pareil ait jamais pu se produire dans un autre pays que le nôtre.
Moi, je n'imagine pas qu'un homme comme Sacha Guitry puisse commettre l'erreur de les faire naître le 15 octobre 1940, alors qu'en fait, ils sont nés le 14 novembre. C'est bien vrai, ils sont nés le même jour, mais un mois plus tard que ne le dit Sacha. C'est vrai que ces deux hommes ont littéralement révolutionné les arts de leur temps. Monet, la peinture, je ne vous apprends rien. Rodin, la sculpture, c'est souvent moins connu.
On écoutait Dimitri Jostakovitch avec The Gadfly.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Auguste Rodin.
Alors, cet Auguste Rodin, disons-le, n'a pas été un bon élève. C'est souvent le cas de ces génies. Vous savez, ils ont l'esprit trop grand et les mœurs trop libres pour entrer dans les cadres qu'on leur fixe. Alors, à l'école, eh bien, il n'est pas bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ses parents ne savent pas trop quoi en faire. Quand même, ils vont l'inscrire à l'école gratuite de dessin de la rue de l'école de médecine, qui est pas très loin de chez eux. Et alors là, en revanche, il est très bon. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont inscrit là? Mais parce qu'il passait, c'est un peu l'histoire guide de graines, vous savez. Il passait son temps à faire des dessins sur tous ses cahiers, etc. Donc au bout d'un moment, les professeurs ont dit à ses parents, écoutez, votre fils, il a l'air d'être plus doué pour le dessin que pour la, que pour les mathématiques ou le français. Et puis, d'un seul coup, c'est un autre don qui va se révéler. Parce qu'en poussant tout à fait par hasard la porte d'une salle de cours qui n'était pas sa salle de cours, il se trompe, si vous voulez, le jeune garçon, et il entre dans un atelier où il voit des élèves en train de pétrir la glaise. Et alors ça, pour lui, c'est une révélation. Voilà ce qu'il écrira beaucoup, beaucoup plus tard. « Pour la première fois, je vis de la terre glaise. Il me sembla que je montais au ciel. Je fis des morceaux séparés des bras, des têtes ou des pieds. Puis j'attaquais la figure tout entière. J'ai compris l'ensemble d'un coup. Je faisais cela avec autant de facilité qu'aujourd'hui. » Et j'étais dans le ravissement. Ça, c'est ce qui s'appelle une grande vocation qui se révèle. Hein. C'est tout à fait magnifique. Alors, pour tout de même, même si on a compris qu'il serait plus tard modeliste et surtout sculpteur, on va essayer de lui donner une éducation artistique un peu complète. Alors, il va suivre des leçons de peinture. On le voit passer ses après-midi au Louvre à faire des croquis. Il va aussi au cours de nu. On appelle ça aujourd'hui de modèles vivants. Vous savez, des gobelins. Il va néanmoins, et ça c'est toujours le même problème, je vous dis, esprit trop grand, tempérament trop libre, il va être refusé à l'école des Beaux-Arts. C'est assez dur ça, mais ça n'empêche pas, puisqu'il a chevillé au corps cette espèce de passion, ça ne l'empêche pas de suivre sa propre formation. Il va être autodidacte en quelque sorte, hein. Il va se former tout seul, il va passer comme ça 20 ans à se chercher, si je puis dire, et en même temps à chercher des emplois dans toutes sortes d'ateliers de sculpture. Quand je dis de sculpture, n'ayez pas imaginé des choses très très élaborées. Il va chez des marbriers pour faire des pierres tombales, il fait vraiment le gros œuvre, si je puis dire. Et puis, un jour, il va rencontrer une jeune fille de 20 ans qui est employée dans une manufacture de confection du quartier. C'est une toute petite employée, hein. Elle est la fille de cultivateur de Haute-Marne, elle s'appelle Rose Beuret, elle a 20 ans, donc lui il en a 25, il se plaise. Alors on est dans ce genre de belle amourette dans le quartier latin à la belle époque, hein. Ça pourrait être un petit côté bohème évidemment. Ils vont se mettre en ménage et au bout d'un an ils ont un petit garçon, Auguste. Alors là il faut vraiment quand même que le père trouve un emploi, il faut nourrir la famille, on est quand même dans la période des vaches maigres, hein. Il s'est trouvé un atelier, Rodin, où il a pouvoir faire ses petits travaux personnels de sculpture. « Oh » écrira-t-il, « mon premier atelier, je ne l'oublierai jamais, j'y ai passé de durs moments. » Tellement dur qu'il va lui falloir quand même entrer au service d'un maître. Et c'est comme ça qu'il va entrer assez vite maintenant dans l'atelier de Carrier-Belleuse, qui lui alors est un des grands sculpteurs de l'époque, qui va l'emmener à Bruxelles. Il disait d'ailleurs, c'est assez beau, il disait « Mon maître Carrier-Belleuse a passé des années à me donner des conseils. Par la suite, je les lui ai tous rendus », disait-il. Parce qu'évidemment, ce qu'il apprend là, c'est la sculpture académique, bien entendu. Il s'en va à Bruxelles avec l'idée de rentrer très vite à Paris. Sauf que là, la politique s'en mêle. C'est la guerre de 1870, l'invasion prussienne, le siège de Paris, la commune, sa femme et son fils, enfin c'est pas sa femme, sa compagne devrais-je dire, et son fils sont coincés dans Paris, lui va rester longtemps à Bruxelles, et pendant longtemps il pense qu'il va arriver à les faire venir en Belgique, et puis finalement c'est lui qui revient à Paris parce qu'il y a la célèbre exposition internationale, qui n'est pas tout à fait une exposition universelle, hein, de 1878, et là on a besoin de lui parce qu'il faut beaucoup de bras pour sculpter à peu près dans tous les sens. C'est à ce moment-là, on va dire aller au tournant des années 1880, que Rodin va connaître ses premiers grands succès. 1880, comme vous avez vu qu'il était né en 1840, vous voyez qu'il a environ 40 ans et il va encore lui falloir 10 ans pour devenir réellement célèbre. Alors, tout à l'heure avec Serge Legas, nous allons parler de tous ces très grands chefs-d'œuvre, hein, du penseur, évidemment, du baiser, de l'Hystérion et Daphné, de Vénus à sa toilette, enfin de toutes ces œuvres extraordinaires qui vont révolutionner la sculpture. Vous avez bien compris que Rodin est le maître de la chair, il est le sorcier de la glaise, il est celui qui donne vie non seulement à la glaise, mais à ces corps qu'il fait naître du néant et qui ont l'impression désormais, qui nous donnent l'impression de palpiter pour l'éternité.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et vous nous contez cet après-midi la vie du sculpteur Auguste Rodin, Franck
Ferrand.
Alors
on a dit que Rodin, Céline, était un véritable faune déchaîné, un satyre. Il faut quand même imaginer ce que c'était, hein, que ce soit son atelier de Paris, celui de qui se trouvait donc à, je cherche, Notre-Dame-des-Champs, voilà, ou son atelier à Meudon, bien entendu. Il faut imaginer cet homme entouré de modèles, bien entendu, et comme il sculpte essentiellement, pas essentiellement, mais enfin en majorité des femmes, il faut imaginer des femmes nues dans son atelier. Alors tout ça, ça fait, on a ça dans tous les ateliers. Sauf que les autres maîtres sont des maîtres académiques. Donc, quelque part, ils sont, à tort ou à raison, ils sont moins suspects que Rodin qui va littéralement pétrir la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, il a cette réputation qui, sans doute, n'est pas entièrement fausse, du reste. C'était Jean Dolan qui écrivait en 1912 « Une femme de Rodin est prise à l'immédiat moment qui précède ou suit le forfait. » Ça faisait fantasmer tout ça. Faut pas oublier qu'on est à la même époque que... On a parlé de Mata Hari, par exemple, qui fait de prétendues danses orientales dans ce qui est devenu le musée Guimet et qui affole tous ces bons bourgeois de Paris en se mettant entièrement nus sur scène. Enfin, vous voyez, on est dans cette période, dans cette belle époque, dans cette période d'avant la guerre de 14, où la société est très corsetée, très rigide, très bourgeoise, et où en même temps, ça commence à faire haut de toutes parts, si je puis dire. Alors, c'est vrai que Rodin aimait les femmes, ça incontestablement. Il a peint, vous savez, enfin il a sculpté, ces danseuses extraordinaires. Je pense à Loïc Fuller, bien entendu, à Isadora Duncan. C'est Isadora Duncan, d'ailleurs, qui raconte ceci, je la cite. « Mon pèlerinage à Rodin ressemblait à celui de Psyché cherchant le dieu Pan dans sa grotte. » Ah, elle allait le chercher, si je puis dire. Je n'ai pas employé le terme d'allumer. « Rodin passait les mains sur ses statues, il les caressait. J'avais l'impression que sous ses caresses, le marbre s'amollissait comme du plomb fondu. Il prit un peu de terre glaise et la pressa entre ses paumes, il respirait avec force, le feu s'échappait de lui comme d'un foyer. » Alors, on pourrait parler d'un certain nombre des modèles de Rodin, de ses aventures compliquées et multiples, tout en restant fidèle toujours officiellement, en tout cas, à cette pauvre Rose Beret qui l'attend le soir à Meudon. La grande aventure de sa vie, évidemment, celle dont on va avoir l'occasion de parler et reparler avec Serge, c'est Camille Claudel. C'est la sœur aînée de Paul Claudel, qu'il rencontre en 1883. Vous savez que Camille Claudel, comme beaucoup de ces jeunes filles de bonne famille, avait organisé autour d'elle tout un petit club, et elle emmenait des amis avec elle pour sculpter, etc. Et donc elle prenait des cours de sculpture. On se rendait dans l'atelier du maître à Notre-Dame-des-Champs. Et évidemment, son air farouche, sa fierté, cette discipline dans le travail qu'elle a tôt montré, ont eu raison, et puis sa beauté tout simplement transcendante, ont eu raison du cœur de Rodin, qui surtout a compris très vite qu'elle tombait amoureuse de lui. Et que voulez-vous? Je vous ai dit, il était la virilité incarnée, il était en même temps le génie, il était le maître, littéralement, et pour Camille Claudel, il a été bien plus qu'un Pygmalion, il a été son véritable maître. Et c'est une histoire terrible, bien entendu. Il en a fait dans un premier temps sa secrétaire, et puis il en a fait son modèle pour le buste d'abord, et puis un buste de plus en plus vaste, et puis pour le nu, tout simplement. Vous voyez l'escalade vers ce qui va être une grande histoire, mais une grande histoire que Rodin n'assume pas du tout. C'est ce que raconte Bruno Huitaine dans son fameux film. C'est Rodin va se montrer fuyant dans cette affaire. Il demeure essentiellement fidèle à Rose, et il est simplement séduit par la beauté de Camille. Je vous donne quand même ce portrait de Camille Claudel par son frère, par Paul Claudel. Claudel nous dit qu'elle avait un front superbe, surplombant des yeux magnifiques, de ce bleu foncé si rare à rencontrer ailleurs que dans les romans, ce nez où elle se plaisait plus tard à retrouver l'héritage des vertus, cette grande bouche plus fière encore que séduisante, une puissante touffe de cheveux châtains, le vrai châtain que les Anglais nomment Auburn, qui lui tombait jusqu'aux reins. Un air impressionnant de courage, de franchise, de supériorité, de gaieté. Quelqu'un qui a reçu beaucoup et qui donc voudrait donner beaucoup, mais qui ne peut pas puisque Rodin ne veut pas. Et ça va être pour Camille, vous savez, au moment de cette rupture silencieuse et disons-le très hypocrite du maître qui dans cette affaire ne joue pas un rôle très très brillant, ça va être pour elle la chute, l'enfermement dans une forme de déséquilibre psychique. On la voit peu à peu qui s'installe chez elle, vous savez, qu'est Bourbon sur l'île Saint-Louis. Elle sort tôt le matin faire quelques provisions, puis on ne la voit plus de la journée. journée, elle peut rester comme ça 2 jours chez elle. Alors vous allez dire, moi ça m'arrive aussi, on m'a pas encore mis à l'asile pour autant. Mais enfin, elle s'enferme complètement chez elle et peu à peu, sa famille s'inquiétant, on est quand même, faut pas oublier, dans cette époque, dans cette dite belle époque, extrêmement dure quand même. Et on va venir la prendre pour l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, pardon, où elle végétera encore pendant 30 ans. Ce qui veut dire que l'homme que nous montre Guitry dans ce Chez nous, vous savez, ce bon vieillard à la mine somme toute épanouie et au regard d'une douceur presque insondable, ce grand Rodin, au moment même où les caméras de Sacha Guitry le filment, doit au fond de lui couver quelque chose comme un secret, comme un tourment qui, après tout, aura peut-être été aussi l'âme et le moteur de la fin de sa carrière. Bonjour Serge Leguin.
Bonjour Franck.
On va parler de Camille Claudel évidemment, mais ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est d'essayer de faire comprendre à nos auditeurs, de leur faire, si je puis dire, toucher du doigt ce qu'il y a de génial chez Rodin. Sacha Guitry disait qu'après tout, il faisait des mains ou des pieds tout seul. Ce n'était pas des études, c'était considéré par lui comme des œuvres à part entière.
C'est une des choses très extraordinaires de Rodin, c'est justement de casser les frontières habituelles des techniques. C'est-à-dire qu'il travaille par assemblage, ça c'est une des choses tout à fait remarquables et étonnantes. Justement, où il prend un fragment d'une sculpture, un fragment d'une autre, il les assemble et on arrive à une création totalement nouvelle. Déjà ça, c'est une création très avant-gardiste.
La nouveauté, l'audace et la vertu sont de mise cet après-midi sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du sculpteur Auguste Rodin avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Serge Leguin, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Et oui, alors Serge, j'ai dit quelques mots de l'enfance de Rodin, d'une famille très modeste, hein, il faut dire, sont des Parisiens modestes, on va dire.
Une famille extrêmement modeste, ce qui peut d'ailleurs aussi expliquer les problèmes que Rodin aura avec ce fameux concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts,
voilà,
qui demandait une vraie culture.
Oui.
Exactement.
Il n'a pas la façon d'être, de se présenter,
Il n'a pas la culture humaniste qu'on attend d'un grand artiste.
En plus, il a été mauvais élève, donc évidemment, il a des grosses lacunes.
Alors, il a une petite excuse, il est atteint d'une très forte myopie, mais on pense que le mauvais élève qu'il a été est aussi dû à ce problème de vue très mauvaise.
Alors, il a été autodidacte d'une certaine manière, parce qu'en vérité, c'est à l'ombre d'un certain nombre de grands maîtres qu'il aura fait ses preuves, et celui qui va le former réellement, avant que lui-même ne déforme l'enseignement, c'est ce qu'il disait, c'est le fameux Carrier-Belleuse. Ça, il faut en parler de lui.
Ah oui, Carrier-Belleuse est vraiment, alors c'est le sculpteur par excellence d'une période. On parlait de la Belle Époque, alors Carrier-Belleuse, il correspond tout à fait à ça.
Ah oui,
et je dirais
sûr.
Que l'œuvre de Carrier-Belleuse, c'est une œuvre protéiforme. On peut avoir des dessus de cheminée que toute la bourgeoisie adorait, des figurines de boudoir.
Dans le grand foyer de l'Opéra de Paris, hein, par exemple.
Tout à fait. Il réalise beaucoup de choses, des torchères. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour l'embellissement des villes, que ce soit Paris ou par la suite Bruxelles, où les deux artistes vont se retrouver ensemble. Donc, Carrier-Belleuse, c'est vraiment quelqu'un qui l'initie totalement à ce domaine d'une sculpture, mais d'une sculpture très diversifiée. On n'est pas dans le grand travail de la sculpture que l'on attend traditionnellement.
Alors, il l'a emmené avec lui en Belgique, où il va d'ailleurs travailler aussi avec Antoine-Joseph van Rasburg. Ça, il faut peut-être le dire
oui,
aussi.
Oui, et entre autres, il continue à travailler pour l'ornementation. Entre autres, il réalise, on le sait, des cariatides, des atlantes pour différents monuments et bâtiments, immeubles, entre autres, du fameux boulevard Anspach à Bruxelles. Et on sait que Rodin travaille justement avec van Rasburg sur cette ornementation de Bruxelles.
Alors, au moment où il part, il est donc déjà en couple avec cette Rose Beuret, qui lui a donné un enfant. Ce sera la femme qui va le suivre toute sa vie.
Moi, je dois dire que Rose Beuret est un personnage qui me touche énormément, ouais. Parce qu'elle le rencontre donc très tôt. Ils ont un enfant ensemble. Ils se sont rencontrés en 64. L'enfant est né en 66. Rodin n'a jamais reconnu l'enfant.
Ce qu'il faut peut-être dire à nos auditeurs, c'est qu'il a perdu sa sœur, lui, quelques temps avant, et ça a joué un rôle important. Hein.
Oui, ça aurait même pu changer totalement son destin, puisqu'à la mort de sa sœur, qui se prénommait Maria, Rodin a une véritable crise mystique. Il va d'ailleurs se retirer du monde et il voudrait même devenir peut-être religieux. Il entre au noviciat de la congrégation du Très-Saint-Sacrement. Et là, il a la chance de rencontrer un homme tout à fait exceptionnel. Vraiment ce qu'on peut appeler un saint homme. D'ailleurs, il sera canonisé en 1962. C'est le père Pierre-Julien Aymard. Et ce qui est tout à fait admirable de la part de ce religieux, c'est qu'il va comprendre que Rodin est venu vers la religion à la suite
par
de
chagrin.
La crise
voilà,
de la mort de sa sœur. Et il va comprendre que ça n'est pas une vraie vocation. Il va donc le réorienter vers la voie artistique, ce qui est tout à fait admirable, plutôt que de garder Rodin dans le giron religieux. religieux, il le réoriente vers le monde de l'art. Et Rodin a d'ailleurs fait un très beau buste du père Aymar, qui est au musée Rodin à l'hôtel Biron.
Alors 2 ans plus tard, donc, pardon, il rencontre cette Rose Beuret.
Tout à fait. Donc, rencontre avec Rose Beuret. Rose Beuret qui sera la compagne de toute une vie. Comme vous l'avez très bien dit, Franck, ils ne se marieront. Alors ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Ils se marieront juste avant de mourir l'un et l'autre. C'est vraiment, on a l'impression que Rodin veut faire enfin un cadeau à Rose Beuret et elle va mourir enfin dans la légitimité. Il l'épouse.
Après
elle
avoir
meurt,
vécu toute sa vie.
Ils ont tout le... c'est hallucinant, la fin de vie. Les gens qui allaient chez Rodin à Meudon disaient, ah, ce que ce monsieur Rodin a de la chance d'avoir cette vieille gouvernante pour s'occuper de la maison parce qu'elle n'était pas à table, elle était là, elle servait un peu de domestique. Oh là là. C'est vraiment une liaison, c'est le comble des apparences bourgeoises que Rodin respecte. Et ça aussi, c'est une chose très caractéristique du paradoxe de Rodin.
Je le présentais comme viril et martial, disons qu'il était carrément macho quand même.
Il était macho et en même temps très faible. C'est un homme qui a vraiment une dualité de personnalité.
Un peu le personnage de, c'est ce qu'on disait, hein, le personnage de Depardieu
absolument.
Dans le film.
Alors,
de
Depardieu est absolument remarquable dans le film où Isabelle Adjani joue Camille Claudel, mais alors vraiment Depardieu a toutes les ambiguïtés de Rodin, c'est-à-dire une espèce de force de la nature que vous avez très bien décrit, Franck, et en même temps, une espèce de faiblesse de caractère qu'on retrouve assez souvent.
Alors Rodin n'a pas suivi la voie royale, il n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais néanmoins il a, comme tous les grands artistes, fait son petit séjour en Italie quand même.
Ah, il est parti en Italie, pour lui c'était un rêve d'enfance. Il est parti en Italie en 1875, il reste quelques mois, alors là il visite toutes les capitales de l'art italien, évidemment, et c'est pour lui le voyage par excellence qu'il attendait, et ça va décupler chez lui une passion absolue pour les grands noms de la statuaire italienne. Il admirait déjà beaucoup Donatello, mais alors le choc absolu à Rome, c'est évidemment Michel-Ange. Et oui, entre autres, le mur d'autel de la chapelle Sixtine va nourrir toute une partie de sa production sculptée par la suite.
Alors c'est même sûrement subjectif, mais lorsqu'on regarde, moi en tout cas, lorsque je regarde une statue de Michel-Ange et que je regarde d'une statue de Rodin, je trouve que les deux sculpteurs ont de très gros points communs. Il y a la même appréhension des forces, il y a la même capacité à couler la force dans la matière, en quelque
sorte. C'est une recherche commune d'expressivité. Ouais, ils ont tous les deux ce besoin de l'expression des formes et de l'expression des sentiments. Avec une différence que je trouve très intéressante, Michel-Ange est vraiment ce qu'on appelle en sculpture un tailleur. C'est quelqu'un qui aime s'affronter au bloc de marbre. Rodin, vous parliez de la terre glaise tout à l'heure, Rodin a eu une très jolie phrase qui montre bien son talent. Il disait « Mon meilleur instrument, ce sont mes pouces ».
Alors vous avez à côté de vous, Serge, le catalogue de l'exposition « Rodin, la lumière de l'antique ». Il est évident que cette influence de l'antique, elle est particulièrement sensible à l'issue de ce voyage en Italie. Et du reste, la première grande sculpture, celle qu'on connaît de Rodin, ça va être l'âge des reins.
Absolument.
Et c'est au retour d'Italie.
Et c'est tout à fait. Ce sera d'ailleurs le premier grand scandale de la carrière de Rodin, puisque c'est une œuvre qui va être extrêmement commentée. On va d'ailleurs considérer, alors à tort, que Rodin a travaillé, ce qui est complètement infamant pour l'époque, par moulage sur le corps humain, ce qui est évidemment la non-création.
On trouve que c'est tellement parfait, c'est plus que parfait. C'est-à-dire que c'est tellement la vie, cette sculpture, que ça paraît impensable que ça ait été sculpté.
Voilà,
ça ne peut être que moulé sur un modèle.
Exactement.
En fait.
On pense que ça n'est donc pas une création, mais que c'est un travail de moulage sur le corps d'un jeune soldat belge qui a servi de modèle. Et Rodin mettra 3 ans à démontrer, ça sera vraiment pendant 3 ans une sorte de sacerdoce pour lui qui est de démontrer à quel point il a vraiment créé cette œuvre. D'ailleurs, chose amusante, quand il fera tout de suite après une très belle sculpture qui représente Saint Jean-Baptiste, volontairement il la fera plus grande que nature.
Et voilà.
Pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'avoir travaillé moulé. Par moulage.
Mais, oui. Mais on peut dire que d'une façon générale, ce pauvre Rodin, si j'ose dire, et qu'on m'en excuse, aura été confronté toute sa vie à la bêtise. On a l'impression que les gens ne le comprennent pas, ne le croient pas, ne le suivent pas. C'est une sorte... Il était peut-être un peu surdimensionné pour son temps.
Voilà, peut-être trop grand pour une époque trop stricte. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, toutes les audaces de Rodin sont des audaces qu'il a du mal à faire comprendre. Et d'ailleurs, certaines qui ne seront pas acceptées. On sait qu'il y aura parlera dans certaines démarches de Rodin, on parlera, je le sais, des bourgeois de Calais.
Oui,
eh bien, par exemple, Rodin avait une démarche très très novatrice par rapport au socle. On est encore au 19e dans l'idée qu'une sculpture c'est sur un socle qui est d'une hauteur relativement constante. Et lui considère, ce qui est une modernité totale, qu'une sculpture doit être soit sur le sol pour être en contact avec l'homme et qu'il n'y ait pas de rupture que ce socle créerait, soit au contraire sur un socle très 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 élevé et la sculpture comme ça domine le personnage qui lui est dans le domaine humain. Et bien chaque fois qu'il envisage des choses de cette façon, on refuse et on place ces sculptures sur les socles traditionnels, basique, tout ce qu'il ne voulait pas. Là aussi ça montre cette incompréhension dont vous parliez très bien.
On a l'impression d'un combat permanent. Alors un être complexe qui a cette relation étrange avec cette femme qui va par ailleurs, ce qui l'empêche pas d'avoir de multiples aventures, bien entendu.
Nombreuses aventures.
Et puis simultanément cette lutte contre toutes sortes d'institutions qui voudraient le faire rentrer dans le moule, si j'ose employer l'expression, à propos de Rodin. Alors, vous avez parlé des bourgeois de Calais, on va y venir, et la porte de l'enfer, et le baiser, et le penseur, etc. Autant de chefs-d'œuvre qui aujourd'hui font partie, on va dire, de l'imaginaire, du musée imaginaire de la statuaire moderne, mais qui, en leur temps, ont été autant de scandales.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Gabriel Yared sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Camille Claudel, réalisé en 1987 avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu.
Alors ce personnage, on va venir au cas Camille Claudel bien entendu, ce personnage, où fallait-il aller le trouver si je puis dire, où est son atelier concrètement?
Alors il aura plusieurs ateliers, il a tout d'abord l'atelier important pour lui, celui où il s'installe, c'est le dépôt des marbres qui se trouvait rue de l'Université à Paris, et c'est vraiment vers 1880, le moment
182 rue de l'Université,
voilà,
là, je
suis en train de chercher. Il installe totalement cet atelier qui devient vraiment le lieu de la création, puis alors il y aura évidemment plus tard le passage vers l'hôtel Biron et également cette villa qu'il va acquérir à Meudon, qui est l'autre musée Rodin d'ailleurs de la région parisienne.
Ce qui veut dire quand même, il devient très riche à la fin de sa vie, bien sûr.
Tout à fait.
Il répond à des commandes.
Il a beaucoup de commandes et puis c'est aussi, il y a encore des paradoxes de Rodin. Moi je trouve que Rodin est vraiment un être très paradoxal. Lui qui a eu du mal à se faire accepter, qui a été beaucoup critiqué, on l'a dit, est vraiment quelqu'un qui recherche les honneurs. Par exemple, contrairement à d'autres artistes, la Légion d'honneur sera pour lui quelque chose d'important. Il aura toutes les degrés, si je puis dire, dans la hiérarchie de la Légion d'honneur.
Et en même temps, on peut dire qu'il n'a pas eu, il n'a pas fait le cursus universitaire classique, il n'est pas issu d'une grande famille, etc., etc. Il a peut-être besoin de reconnaissance.
C'est la revanche, au fond, d'un milieu modeste, de cet échec à l'école des Beaux-Arts. Ça, je crois que quand même, trois échecs pour ne jamais rentrer à l'école des Beaux-Arts, il sera simplement élève de ce qu'on appelle la petite école, future école des arts décoratifs.
Alors, on raconte toujours l'histoire, évidemment, ça fait penser ça au problème de Léonard de Vinci, la commande de la porte de l'enfer. Qui n'est pas honoré en fait. Hein. Racontez-nous ça.
La porte de l'enfer, c'est une commande tout à fait extraordinaire puisque c'est en 1880 où on lui commande une porte monumentale pour le futur musée des arts décoratifs de Paris. Et Rodin va donc travailler avec beaucoup d'enthousiasme sur ce projet d'une porte monumentale, grande porte évidemment de bronze. Et ce qui pour lui sera d'une certaine façon un échec est en même temps une chance puisque Rodin, comme d'autres artistes, a un énorme problème. Rodin ne s'est jamais terminé, conclure une œuvre, pour lui, c'est une petite mort. Et ça, on a beaucoup d'artistes comme ça. Le maître de Manet, Thomas Couture, était incapable de terminer ses tableaux. Ça, je me permets cette petite parenthèse. Quand on regarde les tableaux de Thomas Couture, il y a toujours un tout petit détail, une main, un pied qui n'est pas terminé.
On disait la même chose de Léonard de Vinci.
Ah, exactement. Ce sont des artistes qui ont du mal à conclure. Terminer une œuvre, c'est quelque chose qui est vraiment une impossibilité. Alors, la porte de l'enfer, évidemment, Rodin n'a pas à la terminer, puisque tout compte fait, le projet du musée d'art décoratif est abandonné. Donc, tout compte fait, cette porte n'a plus de raison.
Mais alors, il y a un certain nombre des figures qu'il a sculptées pour la porte qui vont devenir des statues célèbres.
C'est un répertoire. C'est pour lui une sorte de, j'oserais dire, de répertoire personnel puisqu'il va piocher dans cette porte des groupes qu'il va travailler de façon individuelle. Le penseur est un des éléments.
Le penseur, évidemment.
Le baiser est un des éléments également de la porte de l'enfer. Donc, il va utiliser des éléments sur lesquels il avait travaillé puisque la porte de l'enfer, si elle avait été réalisée, elle sera tirée en bronze, mais uniquement après la mort de Rodin. Donc, on a des plâtres, théâtre, on a des œuvres faites du vivant de Rodin. Le premier bronze est réalisé après la mort de l'artiste. Eh bien, il y avait quand même 186 figures qui étaient envisagées pour cette porte. C'était colossal. Donc, il utilisera Ugolin dévorant ses enfants est également un des éléments qui devait décorer cette porte de l'enfer, qui donc ne sera jamais réalisée.
Ça aurait pu être, si elle avait vu le jour, la plus grande œuvre plastique de cette époque.
Absolument. Et quand on la voit, quand on voit le bronze qui est dans le jardin du musée Rodin à Paris, c'est une œuvre éblouissante. Et c'est aussi toujours, on parlait de la culture italienne. La porte de l'enfer, c'est la réponse de Rodin à la porte dite du paradis du baptistère de Florence que Lorenzo Ghiberti avait réalisé. Ça aussi, c'est toujours le choc de ces images italiennes qu'il avait pu voir en 1875.
Alors, il y a une des œuvres de Rodin qui m'est chère parce que j'ai beaucoup travaillé, moi, sur cette affaire des bourgeois de Calais. C'est la ville de Calais qui lui fait la, qui lui passe commande pour ce groupe?
Tout à fait. C'est la municipalité de Calais qui, en 1884, décide de rendre hommage à cet exemple vraiment de
ce grand épisode de l'histoire de France.
Tout à fait. C'est cet épisode de 1347. Mm-hmm. Et alors, très précisément, sur les 6 bourgeois représentés, on veut tout particulièrement honorer la mémoire d'Eustache de Saint-Pierre. C'est particulièrement lui qui doit être mis en valeur parmi les 6 personnages représentés.
Pour rattraper tout ce qui a pu être dit sur ce personnage qui a potentiellement été un traître.
Exactement.
Enfin, je ferme cette parenthèse.
C'est exactement ça. Mais c'est un petit peu aussi la façon de rattraper les choses. Et Rodin va donc travailler sur ce projet. Le plâtre original est réalisé en 89 et le premier exemplaire en bronze en 95. Toujours des délais très, 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 très longs. Rodin ne respecte absolument jamais les délais qu'on lui donne. C'était d'ailleurs une des grandes, grandes problématiques de sa carrière, d'être toujours au-delà des délais impartis.
Et d'être toujours au-delà des attentes des commanditaires,
totalement,
puisqu'on a du mal à comprendre ce qu'il livre. Hein. C'est ça, c'est cette incompréhension. Je cite Sacha Guitry, toujours dans ce de chez nous, bien entendu, à propos de la célèbre statue de Balzac. Il dit « C'est à cause de l'incompréhension des gens devant une œuvre magnifiquement originale telle que la statue de Balzac que cette œuvre par Rodin n'a été acceptée qu'après 40 ans de lutte. Il y a de cela 10 ans à peine, donc on était en 50, vous voyez, c'est ça, c'était au tout début de la guerre. Je regrette seulement qu'on n'ait pas accordé au Balzac de Rodin l'endroit de Paris que je m'étais permis de solliciter pour lui devant l'Institut. Oui, ajoute Sacha Guitry, puisque l'Académie des Beaux-Arts n'avait pas cru devoir accueillir Auguste Rodin, et puisque l'Académie française elle-même avait laissé Balzac à la porte, j'aurais trouvé plaisant de le voir là, dehors, immortel, véritable, et lui tournant le dos. » Ce que ne dit pas Sacha Guitry au passage, c'est que Balzac est mort à l'âge de 50 ans et qu'il n'a peut-être pas eu tout simplement le temps d'entrer à l'Académie française. Mais enfin, j'en ferme la parenthèse. Cette œuvre aussi a été très mal accueillie.
Alors, je crois que c'est même l'œuvre la moins acceptée, comprise de toute la carrière. Parce qu'on attend, la Société des gens de lettres, dirigée par Émile Zola, qui commande cette sculpture à Rodin, attend évidemment l'image de l'écrivain inspiré. Mais on attend, alors par exemple, une chose. On est assez d'accord pour l'idée de représenter un personnage en robe de chambre. On sait que Balzac travaillait beaucoup la nuit en buvant des litres et des litres de café. C'était un grand, grand, grand travailleur nocturne. Et on est assez d'accord pour l'idée de Rodin de le représenter avec cette robe de chambre. Et tout compte fait, ce que l'on a, c'est une espèce de chape informe avec une tête surdimensionnée qui jaillit et qui n'est évidemment plus un portrait au sens traditionnel, mais qui est la plus belle image de ce que peut être le génie inspiré.
Ah oui,
mais évidemment,
formidable.
Alors là, il transcende tout ce que l'on a fait sur le thème d'un artiste représentant un autre artiste. Et évidemment, c'est une incompréhension totale. Et malgré le soutien de certains des personnages de la Société des gens de lettres, c'est un échec absolu et total. Vous le disiez très bien, Franck. Comment de 1891, l'œuvre est mise en place en 1939.
Alors, c'est quand même, ça laisse du temps. Hein. On a pris le temps de la réflexion.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire.
Ce qui est assez toujours troublant avec Rodin, c'est ce qu'il a pu ou non emprunter à Camille Claudel. Ça, c'est le grand débat. Je me rappelle quand j'étais adolescent, que je commençais à m'intéresser à ces questions. C'était le gros sujet à l'époque. Ça s'est un tout petit peu calmé depuis. Il faut dire qu'il y a eu le film par la suite, évidemment. Est-ce que, oui ou non, Rodin a pillé des inventions et même, pourquoi pas, des œuvres à Camille Claudel?
Alors ça, c'est évidemment une grande problématique qui reste. Alors c'est vrai que Camille Claudel l'a beaucoup reproché à Rodin. On sait que dans ses crises de névrose très poussées, elle disait qu'il lui avait tout volé, qu'il lui avait tout pris. Alors indéniablement, Rodin est très fasciné par la personnalité de Camille Claudel, par sa beauté dont on a parlé, par son talent. Mais je pense très très sincèrement que Rodin n'a pas ce besoin d'aller chercher chez quelqu'un d'autre une source de création, que Camille Claudel, elle, rattrape, reprenne des éléments qui viennent de Rodin, c'est certain que Rodin la regarde. Oui, il y a une sorte d'échange entre les deux. Pillage me paraît un terme très exagéré et qui là montre vraiment le déséquilibre mental de Camille.
Les œuvres de Camille Claudel sont généralement de taille nettement plus modeste. Elles sont plus fines, plus quasi graciles. Il y a en quelque sorte quelque chose comme du Rodin qui aurait été fini et poli, si je puis dire.
Oui, et par exemple, une chose très très étonnante, on peut le voir d'ailleurs au musée Rodin de Paris, Camille Claudel aime les partis pris impossibles. Par exemple, elle aime travailler une matière qui est un cauchemar pour les sculpteurs, c'est l'onyx. Alors ça, jamais Rodin ne se serait amusé à travailler une matière comme l'onyx, parce que l'onyx est dur comme du marbre, mais si on tape sur la moindre veine, ça éclate comme du verre. Et donc c'est un cauchemar pour un sculpteur, et Rodin déteste ce genre de matière. Et Camille Claudel, avec un côté névrotique encore une fois, s'affronte à des matières impossibles. Et elle réalise des groupes, entre autres cette merveille qui s'appelle les causeuses, qui sont quelques
femmes. C'est à la vague, moi, mais c'est pas mal non plus.
Absolument, mais c'est tout à fait. Oui. Et qui sont des tours de force techniques. Il y a une espèce de défi permanent chez Camille Claudel. On a l'impression qu'elle va au-delà de toutes les possibilités. C'est ce qui est fascinant, d'ailleurs, dans son talent.
Alors, il n'a peut-être pas pillé son œuvre, mais il a ravagé son cœur, disons-le. Il ne s'est pas très bien comporté, quand même.
Non, mais alors, là, je vais assumer ce que je dis maintenant. Je pense que Rodin est un génie, alors là, absolument incomparable. En tant qu'homme, ce n'est pas toujours un personnage très sympathique. Mmh. Rodin, dans ses aventures, est vraiment un sensuel, ça c'est très bien, mais quelqu'un qui utilise beaucoup les femmes qu'il rencontre, il les prend, il les abandonne, il n'y a pas forcément une grande fidélité, même de sentiment par rapport aux femmes qu'il voit. Et puis, soyons francs, Camille Claudel, au bout d'un moment, il est très séduit par elle, puis elle le dérange, elle est fatigante. Lui, c'est un bourgeois, il est devenu quelqu'un qui aime une vie calme. Rose Beurré, elle accepte tout, elle fait la cuisine, elle s'occupe de ses amis quand ils viennent. Quand il lui dit de ne pas être là, elle n'est pas là. C'est la femme idéale pour lui. Ça, c'est une conception très, très, très machiste du 19e siècle. Camille Claudel, c'est une hystérique, c'est une femme violente, évidemment bourrée de talent, mais au bout d'un moment, il en a par-dessus la tête de ses crises permanentes et il ne la supporte plus.
Il avait un penchant pour les Américaines. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des grandes danseuses, évidemment, dont Isadora Duncan, la duchesse de Choiseul, qui était...
Alors ça, c'est à mon avis le personnage le plus hallucinant qui soit, puisque c'est une liaison qui dure de 1907 à 1912. Alors là, Rodin est fasciné. Être l'amant d'une duchesse, ouais, lui, ça, d'origine très modeste. Mais alors, c'est un personnage au caractère terrible. D'ailleurs, elle coupe Rodin de beaucoup de ses amis. Puis elle avait quand même une formule géniale. Quand on lui parlait, elle disait « Rodin, c'est moi ». Donc, il fallait passer par elle pour aller arriver jusqu'à Rodin. Et c'est elle qui vraiment aura un ascendant pendant des années. D'ailleurs, Rodin, au bout d'un moment, ne supportera plus, là aussi, ce personnage très, très dominateur. Là, il est vraiment dominé par elle. La duchesse de Choiseul, c'est un personnage très haut en couleur.
Alors, on a parlé, bien sûr, de l'influence directe, immédiate, immense de Rodin sur l'œuvre de Camille Claudel. Est-ce qu'il a eu une influence sur d'autres maîtres?
Alors, je dirais que tous les grands artistes à venir ont une dette par rapport à Rodin. Et ce qui est prodigieux, c'est que l'on a évidemment toutes les tendances de la sculpture. On ne peut pas parler d'Antoine Bourdelle sans Rodin, on ne peut pas parler d'Aristide Maillol sans Rodin, et puis même Brancusi aussi qui doit beaucoup à Rodin. Et c'est là où Rodin est extraordinaire, c'est qu'il a nourri par ses possibilités multiples toute la statuaire en devenir. C'est vraiment le père nourricier de la sculpture moderne.
Ouais, il est je disais pour ouvrir l'émission, le père de la sculpture moderne, vous êtes d'accord?
Ah, totalement.
Merci infiniment Serge Lega. Comme d'habitude, nous avons, grâce à vous, eu l'impression de vivre l'œuvre et non pas seulement de la comprendre. Le meilleur moyen pour se faire une idée précise du génie et de Rodin et de son étendue, c'est de se rendre évidemment au musée Rodin, hein, qui se trouve donc dans cet hôtel Biron, juste à côté des Invalides, disons, hein, au bout de la rue de la
Reine. Si je puis me permettre une petite chose, c'est qu'effectivement, on se tient maintenant, à partir d'aujourd'hui, à l'exposition sur la lumière de l'Antique, mais le musée Rodin est en plein réalisme. aménagements. Donc c'est un musée dont on va beaucoup reparler, puisque normalement en 2015, il va réouvrir avec une présentation tout à fait nouvelle et avec vraiment une mise en valeur de l'œuvre de Rodin qui montrera une modernité nouvelle à aborder.
Et avec jusqu'au 5 janvier prochain, la prolongation de l'expo sur Camille Claudel. Camille Claudel sort des réserves, en plus bien sûr de l'exposition Rodin, la lumière de l'antique, qui commence aujourd'hui même. Alors là, c'est jusqu'au mois de février, mais enfin, ça permet d'aller voir tout ça en même temps.
C'est une exposition qui a eu lieu à Arles,
oui, voilà,
et qui est une exposition qui est reprise, puisque
remise
le
en
musée
scène,
Rodin
si
avait
dire,
prêté
voilà,
beaucoup d'œuvres pour l'exposition d'Arles.
Avec un catalogue magnifique que vous avez
super
là avec vous et qui est signé, enfin qui est édité par Gallimard. Merci beaucoup Serge Legas.
Merci Franck.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous répondez à la question d'Alexandre qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission, qui souhaite connaître l'origine des bonnets rouges.
Et oui, c'est vrai qu'on voit tous ces bonnets rouges, on ne parle que de ça en ce moment. Ça n'a rien à voir avec le commandant Cousteau, bien entendu. Tout ça remonte à Louis XIV, à l'époque où les paysans luttaient déjà contre la politique fiscale de Colbert. On est dans les années, vous savez, quand Colbert installe toute l'administration, développe les impôts dans tous les domaines, entre 64 et 75 environ. À partir de 73, on exige pour tous les actes notariés, les actes de justice et tout ça, on exige du papier timbré, on va taxer et le tabac, et l'étain, enfin on a envie de dire n'en jetez plus, d'ailleurs oui on a envie de le dire, ça tombe bien, c'est pratique l'histoire parfois, ça permet de dire non, n'ajoutez plus. Les soulèvements ont commencé à Bordeaux, ils se sont répandus dans tout l'ouest du pays, et ils se sont vite étendus à la Bretagne, et au début du mois d'avril, Rennes, Nantes sont touchés par les émeutes, en quelques jours la contestation va gagner Saint-Malo, Guingamp, Dinan, Morlaix, c'est toute une région, c'est tout un pays, parce qu'à l'époque la Bretagne vient d'être rattachée à la France, hein, qui se soulève littéralement, et c'est là que les bonnets rouges font leur apparition. Alors vous avez d'un côté les bonnets rouges dans tout le centre-ouest de la Bretagne, là où c'est le plus violent, et puis en pays bigoudin, les bonnets bleus, ce sont les fameux bonnets bleus, vous savez, qui seront si durement réprimés, parce qu'alors la répression royale va être absolument terrible. C'est la célèbre phrase de Madame de Sévigné dans sa lettre qui dit « Les arbres de ce pays ploient sous le poids des pendus ». Je précise qu'aujourd'hui, on ne pend plus les bonnets rouges. Bonjour Elena Mornard.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la dépression, mais de la dépression chez les seniors. 3 millions de dépressifs en France et la proportion la plus élevée se trouve justement chez les plus de 50 ans. Il y a des solutions chez les experts européens, puis je vous rassure, juste après il y aura Laurent Ruquier, c'est
oui, voilà.
Un bon antidépresseur.
Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline.
À demain Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.